Bonsoir. Contentieux électoraux en RDC, la Cour constitutionnelle statuant en dernier ressort continue de rendre ses arrêts. Les derniers cas en date sont les arrêts rendus la nuit d'hier et qui invalident 26 députés nationaux, dont 8 du MLC, ce qui porte à plus de 30 députés nationaux invalidés à ce jour. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Yves Kitumba, cadre du MLC. Il est aussi porte-parole de la coordination provinciale de la plateforme Lamouka à Kinshasa. Monsieur Kitumba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Maître Aimé Kilolo, cadre du FCC, il est avocat expert en questions politico-juridiques. Maître Kilolo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maître Willy Wenga, avocat près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Maître Wenga, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs.
Merci, vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Alain Moinzé qui dit ceci en rendant ses arrêts en défaveur de l'opposition. Notre système judiciaire vient de reculer dès 20 ans. Merci de nous suivre en Bandaka sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle invalidant 23 députés de l'opposition sont manifestement commandés pour museler l'opposition politique. C'est ce qu'ont affirmé les députés de l'opposition Lamouka à l'issue de son assemblée générale extraordinaire ce mardi à Kinshasa. Ces parlementaires estiment que la haute cour n'a fait qu'obéir à un ordre politique pour fragiliser davantage l'opposition et ce, en dépit du meilleur résultat qu'ont obtenu ces députés. Michel Kifinda pour les détails.
D'après l'opposition Lamouka, la Cour a rendu ses arrêts au-delà du délai de 60 jours fixé par l'article 74 de la loi électorale. Jacques Joly.
Ces arrêts sont rendus en violation flagrante des procédures en matière de contentieux électoral. Il se dégage donc clairement que les invalidations n'ont visé principalement que les députés de l'opposition.
Il a à cet effet remplacé les députés proclamés élus par la CENI au profit des candidats non élus, ajoute l'opposition. À titre illustratif, l'élu de Kalemi Kabongo s'est vu invalidé avec plus de 18 000 voix au profit de celui qui a obtenu moins de 5 000 voix. C'est aussi le cas de Augustin Mayenga du MS.
J'ai été élu massivement à Kongolo. Je ne peux pas céder à une intimidation quelconque. Et ces arrêts de la Cour constitutionnelle, je ne peux pas les accepter parce qu'elles violent la Constitution. Je ne t'ai même pas notifié, même interpellé, même mon parti n'était pas signifié.
Ces invalidations s'inscrivent donc dans un schéma visant le musellement de l'opposition et la confiscation de la souveraineté du peuple, estime Christelle Mwanga.
Moi-même particulièrement, j'ai recevé des messages. On me disait que si je continuais à parler, on allait m'invalider. Quand la sommité de la justice est inféodée à la solde d'un individu, qu'en est-il de la République?
L'opposition politique invite donc la Cour constitutionnelle à corriger ses arrêts et à cesser son insoumission à la Constitution fondamentale de son existence.
Merci Michel Kifindango. Yves Kitumba, vous êtes cadre du MLC, mais aussi porte-parole de la coordination provinciale de la plateforme Lamouka à Kinshasa. Quel est tout vos faits de cette situation?
Écoutez, déjà, la Cour qui a perdu toute la crédibilité en validant l'élection présidentielle de 15% au détriment de 62%, aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer. Vous avez vu au plus haut niveau de la justice sanctionnée par les États-Unis d'Amérique pour corruption. Cette cour qui est instrumentalisée. Nous nous posons même la question si l'expertise juridique
instrumentalisée
existe
par qui?
Par le pouvoir. Principalement le FCC. Vous savez que...
Vous avez des preuves?
Le début, c'est l'élection présidentielle. Lorsque la cour est allée en violation de la loi... En validant l'élection de 15%, je le répète, parce que jusqu'à preuve du contraire, le jour où NANG publiera les élections bureau par bureau, nous cesserons ces débats. Pour nous, c'est notre pays qui va mal. Et aujourd'hui, il n'y a rien à démontrer que cette cour est discréditée. Cette cour qui a fait un raccordement fraudulé en invalidant notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a désorienté les étudiants qui apprennent les infractions au niveau de deuxième année de l'université, en rendant un arrêt dont la corruption a été équipollente à la subordination de témoins. Cette même cour, aujourd'hui, rend des arrêts en violation de la loi, c'est-à-dire l'article 74 de la loi électorale qui prévoit 60 jours pour les contentieux électoraux. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 jours.
Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça bien avant? Vous avez attendu qu'on puisse invalider vos députés pour dénoncer ça.
Nous nous posons la question, comment des éminents juges peuvent accepter d'être caporalisés jusqu'à ce point? Et cette cour qui devait donner l'exemple d'un autre pays en termes de respect de la République, et cette cour oriente aujourd'hui en termes de combat politique, parce qu'il est manipulé par le pouvoir, oriente les invalidations vers les députés de l'opposition. Et ces invalidations a visé principalement, comme venait de le dire, les députés de l'opposition, que deux opposants, principalement le MLC. Aujourd'hui, nous sommes à 8 députés invalidés. Raphaël Kibouka, 28 600 voix, invalidé au profit de quelqu'un qui a 548 voix. Il y a d'autres députés de la Mouka qui n'étaient même pas attaqués. Il n'y avait même pas un contentieux. On l'invalide pour valider quelqu'un d'autre. Où est le sérieux dans la justice? On dit que la justice élève une nation. Aujourd'hui, mon intervention sera orientée principalement de manière politique, parce que la politique précède le droit. Nous savons cette provocation, nous savons la motivation politique.
Alors, dans votre communiqué, il faut le dire, vous avez tenu une réunion aujourd'hui, le MLC, je veux dire, dans votre communiqué, vous dites que ceci constitue une provocation de trop de la part des ennemis du peuple qui vise à rendre sous silence le MLC. Pour quelle raison?
Écoutez, aujourd'hui, vous savez la force du MLC en termes de popularité, en termes d'adhésion populaire. C'est pour nous faire taire, c'est pour faire disparaître cette machine politique. Mais le peuple n'acceptera pas. Et aujourd'hui, nous allons nous prendre en charge. Nous sommes déterminés cette fois-ci à résoudre un problème politique, parce que nous estimons que ces arrêts sont rendus avec une motivation politique. Il faut une réponse appropriée de manière politique pour résoudre ce problème. Je ne peux pas accepter, nous ne pouvons pas accepter, dans un pays où il y a 80 millions d'habitants et que le 80 millions d'habitants soit soumis à la volonté d'une seule personne. Vous savez, le groupe politique qui est en face de nous, c'est un groupe caporalisé par un seul individu. Et cet individu donne des orientations, donne des injonctions à la cour, à toutes les institutions. Les institutions sont prises en otage.
Vous avez des preuves de ce que vous avancez?
Aujourd'hui.
Ou bien vous le dites parce que vous êtes dans l'opposition.
Aujourd'hui, toutes les institutions sont instrumentalisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que signifie encore le vote de Congolais? Est-ce que le Congolais qui nous suit à cet instant auront encore le plaisir d'aller voter parce que leur voix, leur vote a été désorienté parce que un individu, j'insiste, même pas un groupe d'individus, un seul individu fait valoir sa volonté au détriment de 80 millions d'habitants. Alors nous disons que c'est trop. Et maintenant, nous allons faire des actions politiques pour résoudre cette question de manière politique. Parce que c'est inacceptable.
Merci Yves Kitumba, maître Aimé Kilolo, cadre du FCC. Vous êtes aussi avocat expert en questions politico-juridiques. Maître Kilolo, quelle est votre lecture de cette situation par rapport aux invalidations des députés? La majorité des députés invalidés sont de l'opposition.
Je dirais avant tout que la justice demeure de tout temps le pilier de la cohésion nationale. Ça veut donc dire que l'on ne peut pas non plus s'autoriser de rester insensible à cette sonnette d'alarme d'une fraction de la population qui, à tort ou à raison, soulève des inquiétudes dues au fait des invalidations des uns ou des autres qui avait été proclamé élu par la CENI. Je voudrais ici dire que pour pouvoir savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que les jugements qui ont été rendus, les arrêts de la Cour constitutionnelle l'ont été en fonction de dans le respect des critères et des conditions qui sont prévues à l'article 119 de la loi électorale dans les cadres de contentieux électoral, ou est-ce que les juges ont-ils travesti la vérité des urnes? Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait accéder au contenu des arrêts. Il faut lire la motivation. Au moment où nous parlons, personne n'a encore reçu notification des arrêts en question.
Exactement.
Ce dont le public a connaissance, c'est uniquement ce qu'on appelle le dispositif, c'est-à-dire la conclusion, la décision finale, validée ou invalidée, de sorte que à ce stade, ce débat est prématuré. C'est un débat qui ne se base pas sur des faits concrets. On reste au niveau de la spéculation. Ce que je peux dire à ce stade, c'est simplement que il faut savoir que l'article 119 de la loi électorale prévoit toute une série de conditions. Parmi ces conditions, c'est notamment le fait que lorsque dans une circonscription, aucune liste n'a atteint le seuil du quotient électoral qui est prévu pour l'attribution d'un siège à un regroupement politique, eh bien, c'est le principe du plus fort reste. Mais ce principe fait que, dans la pratique, une personne peut se retrouver avec 10 000 voix, se voir invalidée, face à une autre personne qui n'a obtenu que 2000 voix. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que la personne qui a obtenu 2000 voix a, pour l'ensemble du regroupement politique, c'est-à-dire de sa liste telle qu'elle a été présentée, a pu réunir 30 000 voix. Et donc, automatiquement, l'attribution du siège s'est fait au profit de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, même si dans la pratique, à titre individuel, en termes de voix de préférence, eh bien, la personne invalidée se retrouvait avec un plus grand nombre de suffrages qu'une autre personne. Donc, alors, ceci pour dire que ça peut être prématuré à ce stade de spéculer.
C'est extrêmement
important à ce sujet.
Maître Emi Kilolo, il y a certains députés, je voulais dire, qui se sont vus invalidés sans avoir eu de contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. Des députés qui s'étonnent même qu'ils soient invalidés, quoi, qui n'ont jamais été notifiés, qui n'ont aucun problème au niveau de la Cour constitutionnelle, des députés dont les avocats n'ont jamais été notifiés, je voulais dire. Comment on explique tout ça? Est-ce que c'est normal?
Je suis intervenu moi-même comme avocat dans un certain nombre de dossiers dans le cadre du contentieux électoral. J'ai vu effectivement que plusieurs candidats se sont vus invalidés, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition. La véritable question ici, c'est de savoir que lorsque une personne qui n'a pas été reprise dans les résultats provisoires de la CENI, donc qui a été invalidée par la CENI dans le cadre des résultats, j'insiste bien, provisoires, saisie d'un recours la Cour constitutionnelle, eh bien, c'est le travail du greffier de lancer évidemment la convocation, donc de notifier la personne qui avait été validée dans les résultats provisoires qui avaient été proclamés à la CENI, le prévenir qu'il y a un recours qui est introduit, qu'il y a une date d'audience qui est prévue et qu'il a la possibilité de venir se défendre avec ses avocats. Alors, s'il y a pu y avoir de telles irrégularités, encore une fois, j'insiste, la réponse à toutes ces inquiétudes se trouve dans l'arrêt dont on n'a pas encore connaissance, parce que dans l'articulation d'un arrêt de justice, eh bien, il y a toute une partie qui est prévue, qui est réservée à la procédure qui a été suivie.
Mais pourquoi publier le résultat final? Pourquoi publier la conclusion sans motivation? pour qu'on ne l'a pas fait au même moment, motivation et puis conclusion de la Cour.
Je pense que, comme ça s'est fait devant toutes les juridictions, même au niveau de la Cour pénale internationale, vous pouvez savoir qu'une personne a été condamnée ou acquittée sans avoir pris connaissance de l'arrêt. Et il appartient aux personnes qui se sentent préjudiciées d'aller se porter auprès du greffe de la Cour constitutionnelle pour solliciter de pouvoir accéder à l'arrêt, prendre connaissance évidemment des motifs de procédure et de fond qui ont amené aux conclusions et donc au dispositif de l'arrêt avant de pouvoir émettre des jugements. Sinon, au stade actuel, j'ai dit bien, tout jugement émis me paraît totalement prématuré.
Merci, Maître Aimé Kilolo. Maître Willy Winga, vous êtes avocat. Après la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, votre analyse par rapport à ces arrêts rendus par la Cour constitutionnelle.
Merci beaucoup, madame, pour m'avoir d'abord invité dans votre émission. Je salue les auditeurs de Radio Capi qui sont de nous suivre à travers la République et je viens ici dire que peut-être je suis le mieux placé pour vous parler de ces contentieux parce que j'y ai été moi-même acteur en tant qu'avocat de personnes qui, se disant élues, n'ont pas été proclamées par la CENI. Et j'ai aussi accompagné des députés proclamés provisoirement par la CENI et qui siègent à l'hémicycle à titre d'élu provisoire. Uh-huh. Et donc je pense que, madame, et la question du contentieux électoral, c'est une question technique, ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas un match de tennis où les gens sont dans les gradés en train de voir le faute que font les uns et les autres. Je pense ici, je ne saurais pas intervenir comme un politicien, comme mon collègue de droite.
D'intervenir comme technicien, quoi.
Je viens comme technicien, merci beaucoup. Dès que le contentieux a commencé, conformément à la loi, dès que la CENI a proclamé les résultats, les contentieux ont commencé le 8 février 2019. Et au 8 avril, la Cour a commencé à prendre en délibéré le différents arrêts, les différentes requêtes introduites après la plaidoirie des avocats. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister, madame, au prononcé des arrêts, et au moment où je vous parle, je pense que la Cour est en train déjà de prononcer les arrêts pour aujourd'hui, sinon les avocats qui sont là sont en attente. Ce que je note, c'est que jusque-là, le contentieux s'est déroulé normalement.
Normalement. Elle n'est pas entachée d'irrégularité, comme l'a dit le député Jacques Joly.
En fait, la question d'irrégularité par rapport à un contentieux, je ne sais pas chacun les situe à quel niveau, mais nous qui étions là devant la barre, nous avons comparu pour nos clients, requérants, nous avons comparu pour nos clients qui étaient attaqués, regroupements comme personnes physiques et élus, je voulais dire. Et nous avons terminé les contentieux en bonne et due forme sans aucun incident. Et nous sommes restés pendant une période d'attente, une période où on devait s'attendre à des arrêts qui seraient prononcés. Et lorsque les arrêts ont commencé à être prononcés, nous avons assisté pendant plusieurs séances à des arrêts d'irrécevabilité, à des arrêts de prise d'acte de désistement, à des arrêts de non-fondement. Irrécevabilité, pourquoi, madame? Parce que le contentieux électoral, comme toute autre procédure, devait d'abord s'atteler à examiner la question de la forme. C'est-à-dire que la capacité à rester en justice par le personne morale, que sont le parti politique, la qualité à rester en justice par les personnes qui étaient supposées ou chargées de représenter les partis politiques ou les groupements politiques, la vérification de candidats indépendants, leur pouvoir à rester en justice, et aussi le pouvoir à rester en justice de personnes physiques qui étaient candidats sur les listes. Sur la procédure, au niveau de la forme, on devait examiner cela. Je pense que la Cour a constaté déjà, au niveau de recevabilité et d'irrecevabilité, au niveau de la forme, qu'il y avait beaucoup de cas d'irrecevabilité liés principalement, je pense, moi, à la précipitation, au bref délai de 8 jours pour déposer la requête, 8 jours pour déposer les procès-verbaux, 8 jours pour déposer les pièces, 8 jours pour apporter les preuves que, même si la CENI ne vous a pas proclamé, mais vous avez été élu, et 8 jours pour démontrer à travers les pièces que la personne proclamée élue ne devait pas l'être, et 8 jours pour répondre, madame.
C'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps.
Oui, là, en fait, beaucoup de temps, c'est toutes ces gymnastiques-là. Mais il faut reconnaître que la loi électorale a prévu que Le contentieux électoral doit se dérouler dans les deux mois.
Oui, dans les deux mois.
Dans les 60 justement. Jours, la Cour constitutionnelle devait rendre ses arrêts et terminer les contentieux. Mais je dois noter techniquement par là, sans être l'avocat de la Cour constitutionnelle, dire que lorsque vous regardez en procédure civile, le législateur a prévu 30 jours pour qu'un juge puisse rendre son un jugement. Le délai pour prononcer un jugement, madame, est de 30 jours. Et le délai pour prononcer les arrêts de 1000 des affaires, 1000 et des affaires enrôlées en deux mois,
c'était pratiquement impossible.
Pratiquement impossible, madame, parce que ce que le législateur, ce dont le législateur n'a pas tenu compte, c'est le volume du contentieux. Je ne peux pas entrer dans des considérations politiques, madame, tendant à dire qu'il a ceci, il a cela. Moi, je voulais juste expliquer les contentieux pour dire que des mois prévus par le législateur, et là, j'ai suivi le professeur Njoli, vous parlez des deux mois au-delà. Je me dis, 1000 aidés à faire, à instruire, à plaider, 1000 aidés à faire, madame, où on doit prononcer les arrêts, c'est beaucoup. Et la Cour constitutionnelle, si on ne le sait pas, en matière de contentieux électoral, de l'élection législative, le contentieux a été connu par 7 juges seulement. 7 juges. 1000 dés à faire, 7 juges. Ils sont 9, mais 7 seulement ont siégé.
Mais est-ce qu'il fallait violer la loi, Maître Wenga, même si on sait que la loi prévoit 2 mois pour résoudre ce contentieux? Est-ce qu'il fallait violer cette loi malgré le volume du travail?
Et je pense, madame, que le législateur a été même malin pour qu'on ne parle pas de la violation. Vous savez qu'en matière de droit, toute violation est assortie d'une sanction. Mais lorsque vous regardez les dispositions pertinentes de la loi électorale qui vous parle de délai de deux mois pour connaître du contentieux électoral, le législateur n'a pas assorti sa disposition des sanctions. Que devient le contentieux électoral après les deux mois? Le législateur ne l'a pas dit. Et là, c'est des legs ferenda. Les personnes qui parlent de la modification de la loi électorale doivent déjà préparer les sanctions liées au non-respect des délais. Mais aussi, le cas de force majeure dont on parle souvent. Je voulais vous dire, madame, 7 juges, 1000 et des causes à instruire, même les juges célestes ne peuvent pas les faire.
Merci, Maître Wenga. Yves Kitumba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kasumbalesa.
Harvey Kabuya Mukendi, depuis Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Dans le régime passé, on cessait d'accuser la Cour d'être impartiale. On jugeait ses décisions d'être en faveur du parti présidentiel en paix. Et voilà aujourd'hui que nous avons le changement à la tête de l'État. Les arrêts de la Cour constitutionnelle continuent encore à faire débat. Il importe de savoir que, dans notre pays, une décision de la Cour constitutionnelle, importante soit-elle, ne peut en aucun cas faire l'unanimité. Car chaque choquer sa victoire pour ne pas parler de défendre ses propres intérêts. À mon avis, nous n'allons pas toujours continuer à ternir l'image de notre justice en jetant en bloc ces arrêts. Vous voulez me dire que les personnes qui sont à la tête de cette cour sont toutes corrompues? Et pourquoi devraient-elles se prononcer en faveur d'un camp au détriment d'un autre? Nos politiciens doivent apprendre à accepter les échecs, car je n'ai jamais vu ni entendu dans notre pays un politicien accepter une décision de la cour, et surtout quand celle-ci n'est pas en sa faveur. Néanmoins, je compatis avec tous les députés nationaux qui ont été invalidés. Et s'il n'est pas la fin du monde, ils doivent être démocrates, peu importe la manière avec laquelle ces décisions ont été rendues.
Yves Kitumba.
Je respecte le point de vue de l'auditeur, mais je voulais dire quelque chose de très important. Vous savez que aujourd'hui, si nous rentrons à la base sur les élections et arriver jusqu'à la juridiction compétente pour juger les contentieux électoraux, nous disons clairement que la justice est instrumentalisée. Les arrêts rendus en faveur du pouvoir passé. Il n'y a pas de pouvoir passé. Le pouvoir est là. Kabila est là. Le FCC est là. Vous savez dans quelles conditions l'actuel responsable de l'État est arrivé là où il est. Vous savez dans quelles conditions aujourd'hui cette majorité numérique existe à l'Assemblée nationale. Pour nous, il n'y a rien d'étonnant parce que tout a été violé à la base. c'est-à-dire à l'élection présidentielle. Pour l'auditeur, nous pouvons faire un calcul simple. Avec tous les moyens de l'État que le candidat numéro 13 avait, avec les moyens de l'État, l'argent et tout, il n'a pas réussi à se faire élire. Prenons même les chiffres de la CENI, des NANG. Lorsque vous prenez le 34% qu'on a attribué, 36 ou 34% qu'on a attribué de manière aveugle, sans détail à l'actuel responsable de l'État, et le 34, le 32 ou le 34% qu'on a attribué à Martin Fayulu, l'ensemble, on est autour de 72%. Et imaginez, les forces de changement des 72% produisent une cinquantaine de députés à l'Assemblée nationale. Et l'autre, qui a 17 ou 18%, produit plus de 75% à la législature et nationale et provinciale. Donc, clairement, c'est une tricherie. Clairement, c'est une manipulation politique. Clairement, et les cours d'appel et la Cour constitutionnelle sont la seule du pouvoir. Et aujourd'hui, je mets quiconque à défi de me démontrer que le pouvoir a changé, parce que ce sont les mêmes méthodes. Aujourd'hui, l'opposition est traquée. Aujourd'hui, on invalide principalement les opposants avec une motivation politique que je venais de dire. Cette motivation politique, nous la connaissons. Demain, nous ne serons pas étonnés lorsque on va valider Thomas Lowaka, on va valider Thérèse Olenga, on va valider les députés du FCC. Et essentiellement, on invalide les députés de l'opposition pour le remplacer par les députés du FCC. C'est-à-dire, il y a un projet politique, s'il vous plaît. Il y a un projet politique. Ce projet politique, c'est de modifier la Constitution. C'est de rendre les élections au suffrage indirect et élire le président de la République au suffrage indirect. Nous disons et nous le répétons, cette fois-ci ou jamais. C'est une affaire politique, ce sont des arrêts rendus de manière avec des motivations politiques. Il y aura une réponse appropriée conformément à la loi, conformément à la Constitution.
Vous avez décrié tout à l'heure les délais pris pour rendre ces arrêts. On a suivi Maître Willy Winga. Est-ce que ces explications vous ont convaincu?
Non, non, je veux dire, la loi est impartiale. On ne se justifie pas devant la loi. Nous sommes égaux devant la loi. De la même manière qu'on a attribué 8 jours pour déposer des requêtes sur les contentieux électoraux, de la même manière, le juge doit respecter le délai de 2 mois. Pour déposer, les politiciens doivent respecter le délai de 8 jours. Et pour rendre les arrêts, il faut aller au-delà de la loi et donner des explications. C'est totalement... je ne sais pas comment expliquer ça. C'est totalement chevauché en termes politiques, chevauché en termes de normes. La loi est impartiale. Tout le monde doit respecter la loi. Les juges ne sont pas au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes soumis par la loi. Et lorsqu'il y a un problème des élections, les 8 jours, c'est bon pour rassembler les PV, rassembler les preuves, rassembler tout ce qu'il faut rassembler dans les 8 jours. Mais pour rendre l'arrêt, vous allez au-delà de 2 mois. Vous dites, ben voilà, c'était 1000 et quelques affaires.
Il y a eu trop d'irrégularités, comme il
l'a
dit.
Les irrégularités.
Les gens l'ont fait peut-être dans la précipitation.
Le pouvoir en place a rendu ce pays un pays des irrégularités. Vous comprenez? Nous n'avons plus de valeur dans notre pays. Aujourd'hui, si nous, jeunes, nous sommes engagés en politique parce que nous sommes 10 haros. Trop, c'est trop. Laissez-moi terminer, madame.
Vous n'allez pas prendre tout le temps.
Non, je vais terminer. Je vais chuter. Nous sommes de jeunes, nous sommes engagés en politique pour que ça change. Ce pays ne décolle pas depuis 1960 à cause de ces genres de choses. Il y a eu toujours des irrégularités. Un pays qui n'est pas respecté. Les acteurs politiques non respectés. Non respectueux, qui ne respectent ni la loi, ni quoi que ce soit. Nous sommes où? Et qu'est-ce que nous allons laisser pour les générations futures? C'est pourquoi nous nous engageons en politique pour mettre terme à ces histoires. Merci, et nous engager Yves. Pour qu'il y ait des décollages de ce pays, pour qu'il y ait véritablement
Merci,
changement.
Merci Yves Kitumba. Maître Aimé Kilolo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi.
Hilaire Moutinji, depuis Lubumbashi. La situation qui se passe à la Cour constitutionnelle, c'est une situation triste et inacceptable. Curieusement, ce sont des opposants qui sont invalidés au profit de FCC. La Cour constitutionnelle montre à suffisance que c'est une cour de la Kabylie. Il faut vraiment récomposer cette cour.
Maître Mekilolo, réaction. Une cour de la Kabylie, bien, il faut la recomposer.
Je pense que, raison gardée, il faudrait simplement constater que tout le monde est d'accord sur un fait, c'est que il est inacceptable qu'un juge, dans l'exercice de ses fonctions, puisse travestir la vérité des urnes. Un juge ne peut pas verser dans la malversation dans l'exercice de ses fonctions, raison pour laquelle les dispositions pénales, notamment les articles 147 suivants, prévoient des peines de prison qui peuvent aller de 10 à 15 ans de prison pour un juge qui verserait dans la corruption à l'occasion d'un jugement ou d'un arrêt qui serait rendu. Cela étant dit, je voudrais ici constater que aucun élément de preuve n'a jusqu'à présent étayé toutes les allégations qui sont faites autour de cette problématique. Le plus important, c'est aussi de savoir qu'en démocratie, il faut faire attention de ne pas tomber dans des imputations dommageables à autrui. Tout propos de nature à porter atteinte à la réputation, à la considération d'autrui ou de nature à l'exposer au mépris du public peut faire l'objet d'une répression devant la justice pouvant aller jusqu'à un an de prison. Donc face à tout cela, moi je dirais tout simplement, il est important d'attendre, de prendre d'abord connaissance des arrêts, des motifs des arrêts qui ont été rendus. Pour le faire, c'est très simple, il suffit de se rendre au greffe de la Cour constitutionnelle de demain matin et solliciter de pouvoir accéder à tout le raisonnement qui a pu amener le juge à rendre un arrêt dans un sens ou dans un autre. On peut constater que dans certains cas, parce que moi-même j'ai eu à plaider beaucoup de dossiers devant la Cour constitutionnelle, j'ai vu beaucoup de cas des personnalités, de candidats qui avaient même été proclamés provisoirement élus de la majorité, qui se sont vus invalidés du FCC. J'ai aussi vu des cas, effectivement, des personnalités de l'opposition, de la MOUCA, qui ont été proclamés élus alors qu'au départ, au niveau des résultats provisoires de la CENI, ce n'était pas le cas. Donc je pense qu'ici que le débat actuel est un débat théorique, c'est un débat d'école en l'absence des articulations des faits précis, imputables à un magistrat ou à un candidat qui aurait été proclamé élu alors qu'au départ il ne l'était pas dans le résultat provisoire. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui tirer la moindre conclusion.
Alors, Maître Kilolo, qu'est-ce que vous pensez de l'opposition qui estime qu'on voudrait la museler, qu'on voudrait la rendre au silence, la réduire au silence? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais déjà, la question, c'est de savoir qui veut museler cette opposition.
Parce le FCC.
Nous avons assisté à un transfert pacifique de pouvoir entre un président de la République issu de l'ancienne majorité au pouvoir et un nouveau chef de l'État issu justement de la même opposition. Je veux dire, l'UDPS était quand même le parti phare de l'opposition en République démocratique du Congo depuis tant d'années. Et donc, parler de musellement d'une opposition qui a la liberté de manifester, d'émettre ses opinions dans les cadres de meetings populaires tels que l'on le voit, sans subir la moindre répression ou la moindre entrave à sa liberté, je pense que c'est aller un peu trop vite en besogne.
Merci Maître Kilolo. Maître Wenga, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
C'est Ougane Mungwadjou et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. ces invalidations amassent des députés majoritairement de l'opposition et minoritairement du FCC jettent une fois de plus un discrédit sur la Cour constitutionnelle. Ces arrêts viennent de prouver à l'opinion nationale que le régime sortant de M. Kabila nous a organisé une élection contestable nommant ses propres élus qui contraste à la volonté du peuple. Si la justice qui élève une nation est instrumentalisée, à quoi tiendrait la raison d'avoir une faculté de droit au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire pour continuer à former Q alors que les institutions vitales du pays sont déjà prises en otage?
Maître Wenga, même si vous ne voulez pas entrer dans l'aspect politique quand même de la question, mais comment vous répondez à cet auditeur?
Merci beaucoup, madame. Je pense que j'ai rappelé que la question du contentieux électoral, c'est une question technique. Vous savez, lorsque je suis les réactions des uns et des autres, je me dis quelque part, vous savez, les hommes politiques ont l'avantage de parler, même lorsqu'il y a des situations que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Le contentieux électoral, c'est un contentieux de résultats. Le contentieux de résultats, madame, c'est un contentieux de pièces. Moi, je ne suis pas de l'avis de dire pour ou contre la Cour constitutionnelle. Parce que je vous dis, j'ai eu des clients hier soir qui ont été invalidés. J'ai eu des clients qui ont été validés. Donc, je me dis, la question du contentieux électoral, au-delà de toutes les considérations politiques, au-delà de toutes les critiques qu'on peut formuler contre la Cour, c'est une question technique. La question qu'on doit se poser, madame, par rapport à ces contentieux, qui de toutes les personnes qui parleraient aujourd'hui pour ou contre le comportement de la Cour constitutionnelle est ou dispose des éléments que chaque requérant a introduit devant la Cour? Parce que ici, la question n'est pas de dire on a mal invalidé, on a mal validé ou on a bien validé au profit ou au détriment de celui-là. Mais la question qui se pose, c'est lui qui a été invalidé lorsqu'il a été proclamé lors du contentieux, quelles sont les pièces qu'il a déposées pour davantage prouver qu'il avait droit à être validé? Celui qui a été validé, requérant devant la Cour constitutionnelle, quelles sont les pièces qu'il a déposées et qui ont milité en sa faveur pour qu'il soit aujourd'hui validé? La question fondamentale pour apprécier l'attitude de la Cour constitutionnelle est de savoir sur base de quoi le juge se sont-ils fondés pour valider ou invalider. Lorsque on dit que il y a irrégularité du fait que le juge ont rendu leurs arrêts sur dispositif, ce n'est pas comprendre la raison de ce dispositif. Madame, vous savez, lorsque nous sommes devant la Cour constitutionnelle, nous sommes là parfois depuis 16h, 17h, les arrêts commencent à... L'extrait de rôle est présenté. Il y a 5 ou 8 affaires à prononcer. Et le juge vous dit que l'arrêt que nous allons lire tout de suite, c'est un arrêt qui a été intégralement rédigé, tant en motivation qu'en dispositif. Cela signifie quoi? Lorsque mon collègue de droite, lorsque les auditeurs vous parlent de la question de ces arrêts, j'ai aimé quand même la position de confrère Kilolo, qui dit on ne peut pas critiquer l'œuvre du juge de par le dispositif. On critique l'œuvre du juge de par la motivation. Uh-huh. On critique l'œuvre du juge de par la manière dont il a construit les faits. On critique l'œuvre du juge de par la manière dont il a abordé la question de droit. On critique l'œuvre du juge par rapport à la manière dont il a traité les pièces à sa disposition. Et ici, il se pose un problème. Le contentieux de résultats, c'est un contentieux de chiffres. Un contentieux de chiffres. Si demain, la Cour constitutionnelle serait ou était une institution qui devrait se défendre, il se défendait par rapport à la manière dont elle a manipulé les chiffres pour valider ou invalider
un candidat quelconque. Mais Willy Wenga, que dire des députés qui se sont vus être invalidés alors qu'ils n'ont jamais été notifiés? Comment on explique ce cas?
Il y a une question dans la manière de procédure au niveau du juge. Vous savez, lorsque le juge constitutionnel siégeant comme juge électoral du contentieux législatif national, madame, la commission électorale indépendante transmet au juge toute la situation d'une circonscription, toute la situation des résultats, de celui qui a été proclamé jusqu'à celui qui a eu une voix ou zéro voix. Et la Cour constitutionnelle n'est pas une commission de la CENI. La Cour constitutionnelle, c'est une institution créée par le législateur pour censurer le travail de la CENI. Est-il vrai que dans le travail de censure, l'humanité de l'homme peut jouer? Est-il vrai que dans le travail de censure, et la subjectivité peut jouer ce qui est à décourager, ce qui est à décrier, ce qui est à dénoncer, au cas où la subjectivité a joué? Mais ici, madame, lorsque le juge examine le contentieux électoral, il examine des plano. C'est-à-dire, il examine le contentieux électoral en réexaminant la position, la situation et l'applicabilité des dispositions de l'article 118 et 119 de la loi électorale, et peut arriver à constater que celui qu'on a mis deuxième, celui qu'on a mis troisième, devait être neuvième. Celui qui est neuvième et qui n'a pas été présent au contentieux devrait être deuxième. Et à ce moment-là, on voit celui qui n'a pas été au contentieux être validé. Alors qu'il n'a pas, c'est-à-dire que la Cour a suppléé. Il y a ce qu'on appelle la suppléance d'office. La Cour a suppléé à la carence de celui qui n'a pas été dans le contentieux, mais qui a eu à être mal proclamé, alors qu'il avait droit à être proclamé.
Merci, Maître Winga. Yves Kitumba, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre ou lire les motivations des juges avant de prendre une décision, de dire qu'on va réagir par des actes politiques? Vous jugez ces arrêts, ces juges d'être instrumentalisés par les FCC?
Je vais justifier ça. D'abord, ce que Maître Willy Winga vient de dire, c'est très grave. Vous imaginez que la CENI n'a pas compilé les résultats, il n'y a pas eu de PV de Celser, et aujourd'hui la CENI a sorti des chiffres bruts qui a proclamé les résultats, les députés et tout ça. Ils sont allés en contentieux électoraux, et que des gens qui sont validés aujourd'hui, j'estime, si vous voulez nous entrons dans la technique, j'estime qu'ils ont apporté des preuves. Ces preuves devaient en principe être contradictoire avec les chiffres de la CENI. Est-ce que le juge ont procédé au récomptage de voix, ou ils s'y sont basés sur le chiffre apporté par la CENI ou apporté par le PV? Or, vous savez bien, ces élections avec la machine à voter, il y avait d'autres acteurs qui en avaient à la maison, il y a d'autres qui ont manipulé les PV, fabriqué les PV. Le recomptage de voix, est-ce que le juge ont procédé au recomptage de voix que nous, la Mouka, nous avons exigé pour la présidentielle, dont le juge n'a pas accédé à notre demande? Et sur base de quoi? Sur base de quel élément par rapport à la loi? La loi dit, lorsqu'il y a contradiction de chiffres, le juge, dans son appréciation bien entendu, peut recourir au recomptage. Et aujourd'hui, pour la clarté, pour rendre la justice, pour rendre l'équilibre, pour rendre le pays, élever le pays, parce que la justice élève une nation,
est-ce que
les juges ont procédé au recomptage de voix? Vous serez en difficulté de me le prouver. Et aujourd'hui, nous disons sur base de quoi l'arrêt, dont vous pouvez motiver avec de termes juridiques comme vous voulez, tant qu'il n'y a pas eu recomptage de voix, nous sommes désolé de le dire, que la Cour est instrumentalisée et la Cour est à la solde du pouvoir.
Merci Yves Kitumba. Maître Emeki Lolo, votre conclusion?
Je dirais tout simplement que tous les candidats aux différents scrutins étaient appelés à faire preuve de diligence en veillant à se procurer les résultats de chaque bureau de vote au sein de leur circonscription, pour pouvoir, au moment venu, les présenter comme éléments de preuve dans le cadre du contentieux électoral. C'est ce qui a été fait dans beaucoup de dossiers dans lesquels je suis personnellement intervenu comme avocat, de sorte que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je voudrais dire que tant que nous n'avons pas encore reçu de notification de la Cour constitutionnelle pour pouvoir lire l'articulation du raisonnement juridique conduit par les différentes qui ont amené aux différents arrêts, l'on ne peut que faire de la spéculation.
Merci Maître Kilolo. Un mot pour conclure, Maître Winga.
Je vais conclure en disant ceci. On ne peut apprécier l'œuvre du juge qu'après par rapport à la motivation de sa décision. Ce qu'il faut retenir ici, et c'est important, c'est que la Cour constitutionnelle, nonobstant le pouvoir lui reconnu par la loi, doit statuer sur toutes les requêtes qui lui restent encore de manière très objective, en se basant sur des éléments du dossier.
Merci. Et non...